Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 13 décembre 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Deuil de 3 jours au Niger pour rendre hommage aux 71 soldats tués à Inates. Une marée humaine a envahi Alger pour protester contre l'élection d'Abdelmadji Tebboune à la tête de l'État. Dans son discours à la nation, le président congolais Félix Tshisekedi a souhaité rétablir un scrutin présidentiel à 2 tours. Après une large victoire aux législatives, Boris Johnson pourra mener le Royaume-Uni hors de l'Union européenne au 31 janvier. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Hommage national ce matin au Niger, aux 71 soldats tués mardi par des terroristes à la frontière avec le Mali. Le président Issoufou Mamadou s'est incliné devant les corps en présence des parents et compagnons d'armes des militaires. 3 jours de deuil ont été décrétés. Abdulrazak Idrissa nous en dit plus.
Étalé sur le tarmac de la base aérienne de Niamey devant parents, amis et compagnons émus sur chacun des 71 corps couverts par le drapeau national, le chef de l'État Issoufou Mahamadou a déposé des médailles après les avoir élevés tous au grade supérieur à titre posthume. Peu avant, ému, le président Issoufou Mahamadou a salué la mémoire de ses héros, particulièrement celle de leur commandant.
Commandant Hassan Anoutabe, tu devrais aller à la retraite, si bien mérité au regard de tes états de service dignes d'éloge. Mais tu as fait le choix d'accepter la proposition qui t'a été faite de continuer à servir ta patrie. Tes 70 soldats et toi, la nation entière, est fière de vous. Votre sacrifice, tes soldats et toi, ne sera pas vain. Gloire à vous.
Cet hommage national aux 71 soldats tués le 10 décembre dernier intervient au premier jour du deuil national de 72 heures décrété par le gouvernement suite à ces événements qui ont marqué toute une nation encore sous le choc. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Nigeria, 14 membres de milices civiles et un policier ont été tués jeudi à Mamoury dans l'état de Borno. Les djihadistes de l'ISWAP, faction de Boko Haram affiliée au groupe État islamique, sont arrivés à bord d'une douzaine de pick-up équipés de mitrailleuses et ont pris d'assaut un poste de sécurité tenu par une milice civile dans le nord-ouest du pays. Une session extraordinaire à l'Assemblée nationale camerounaise s'est ouverte à la demande du président Paul Biya pour examiner un projet de loi sur la décentralisation. Le Parlement devrait se pencher sur l'adoption du statut spécial des régions anglophones où la population subit un conflit meurtrier. Blanche Sanou nous en dit plus.
Parmi les recommandations du Grand Dialogue National, il y avait la mise en place d'un statut spécial pour les régions anglophones. Cette session du Parlement doit donner un coup d'accélérateur au processus de décentralisation, selon Kavaye Yegye Djibril, président de l'Assemblée nationale. Cette réunion durera au maximum 15 jours. Le Sénat se réunit également en session spéciale. Un projet de loi sur les collectivités locales décentralisées devrait voir le jour. Le statut spécial donnera aux populations anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest une plus grande autonomie financière, la possibilité d'élire leur gouverneur, autrefois nommé par le président, et le rétablissement d'une chambre des chefs traditionnelle. Mais selon plusieurs ONG, depuis le grand dialogue boycotté par les indépendantistes, la violence est intensifiée dans ces régions anglophones.
Dans son premier discours sur l'état de la nation devant le Parlement, le président congolais Félix Tshisekedi a mis l'accent sur le rôle de l'armée. Voici un extrait de ce discours.
Malgré la persistance des tueries que nous déplorons dans certains endroits, le bilan de la grande offensive de nos forces armées est tout aussi satisfaisant. Depuis l'établissement de l'état-major avancé à Beni, où la quasi-totalité des sanctuaires des ADF-NTM et des forces négatives ont été démantelés. Ce qui explique le changement de stratégie de l'ennemi en déroute, qui vient désormais s'en prendre aux populations innocentes dans les grandes cités urbaines, guerre, vise seulement la mort et la désolation. Nous avons affaire à une guerre asymétrique avec des actes de terreur. Notre détermination est totale et sans faille pour les éradiquer.
Un extrait du discours de Félix Tshisekedi qui a par ailleurs souhaité rétablir un scrutin présidentiel à deux tours et esquisser des pistes anticorruption en République démocratique du Congo. Quatre personnes ont été tuées dans le nord de l'Ouganda lors d'affrontements entre des réfugiés sud-soudanais et la population locale qui ont fait fuir environ 3000 personnes, a indiqué le HCR. Ces violences se sont déroulées mercredi et jeudi après la découverte du corps d'un Ougandais près du camp de Nyumanzi. Les résidents ont suspecté les réfugiés qu'ils ont alors attaqués. Deux réfugiés et deux Ougandais ont été tués et 12 autres personnes ont été blessées dans ces affrontements.
Une marée. Un ex-fidèle du président.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Tout juste élu hier, l'ancien premier ministre algérien Abdelmadjid Tebboune fait déjà face à la contestation. Il a recueilli 58% des voix à la présidentielle. Des milliers de personnes ont manifesté en ce 43e vendredi de mobilisation. Abdourahmane Dia nous en dit plus.
Une marée humaine a envahi le centre d'Alger pour conspuer le nouveau chef de l'État, un ex-fidèle du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Le vote est truqué, vos élections ne nous concernent pas et votre président ne nous gouvernera pas, scandent les manifestants qui défilent en masse dans le cadre de la mobilisation depuis le déclenchement en février du Hirak, un mouvement de contestation populaire inédit. Les manifestants brandissent des pancartes sur lesquelles on peut lire « Tebboune, ton mandat est un mandat mort-né » ou encore « Votre président ne me représente pas ». Âgé de 74 ans, Abdelmadjid Tebboune, ancien ministre puis chef de gouvernement d'Abdelaziz Bouteflika, a été élu dès le premier tour. Le scrutin a été marqué par une abstention record. Moins de 40% des électeurs ont voté.
Au plan international, l'acte d'accusation de Donald Trump a été approuvé par une commission à majorité démocrate du Congrès américain, franchissant une étape décisive avant un vote sur le probable renvoi du président des États-Unis en procès pour destitution. La commission judiciaire de la Chambre des représentants a adopté deux chefs d'inculpation retenus par les démocrates, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Il revient désormais à la Chambre de voter sur ce texte lors d'une séance plénière mercredi. Nous y reviendrons dans les dossiers du jour. Élu massivement sur sa promesse de réaliser le Brexit le 31 janvier, le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé au rassemblement dans un pays divisé sur la sortie de l'Union européenne. Et Kia Badou nous en dit plus.
J'appelle tout le monde à tourner la page et à commencer à panser les blessures. Après plus de 3 ans de déchirement depuis le référendum de 2016 qui a décidé le Brexit, a déclaré le dirigeant dans une courte allocution devant le 10 Downing Street. Il a tendu la main aux europhiles et à ceux qui n'ont pas voté pour lui, insistant sur sa volonté de se concentrer sur les priorités des gens, comme la santé, la sécurité, l'éducation et les infrastructures. Les conservateurs ont remporté une majorité d'une ampleur inédite depuis Margaret Thatcher en 1987, raflant 365 sièges sur 650 grâce à la prise de circonscriptions ouvrières acquises depuis des décennies aux travaillistes mais favorables au Brexit. Selon Boris Johnson, sa victoire résulte de la décision irréfutable, irréversible et incontestable des Britanniques de tourner la page de l'Union européenne après 47 ans de mariage houleux. Il a été reçu au palais de Buckingham par la reine Elisabeth II, qui l'a chargé officiellement de former un nouveau gouvernement.
Après la conclusion d'un accord avec Pékin, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis renonçaient à imposer dimanche des nouveaux tarifs douaniers sur 160 milliards de dollars de biens chinois. Une annonce faite après que la Chine eut annoncé cet accord commercial préliminaire qui prévoit une réduction progressive des droits de douane punitifs visant les produits chinois. Les deux parties doivent signer l'accord, a souligné un vice-ministre du Commerce. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, qui vous est présentée ce soir par Irénée Herman Ongbo.
En Côte d'Ivoire, le montant des marchés publics attribués aux PME est passé de 15,6% à 46,6% en un an, soit une hausse de 31% en glissement annuel. L'annonce a été faite par le gouvernement ivoirien à l'issue de son dernier conseil des ministres. Nouvel élan de développement au Sénégal, le pays s'est doté d'une centrale flottante génératrice d'énergie à base de GNL, ouvrant près d'un sixième de ses besoins. L'ouvrage est un composant du projet d'exploitation pétrolière Grand Tortue Ameim et marque une nouvelle étape dans son plan de développement d'un mix énergétique. Au Congo, le FMI dit avoir reporté au premier trimestre 2020 le versement de 44,7 millions de dollars représentant la deuxième tranche d'un prêt. L'institution demande à Brazzaville de faire plus d'efforts dans la lutte contre la corruption et le règlement de ses dettes. La Banque mondiale a reçu des promesses de renflouement record de 82 milliards de dollars sur les trois prochaines années, dont 53 milliards pour l'Afrique, soit 7 milliards de plus que sur la période 2017-2020. Il s'agit du plus grand renflouement de l'histoire de l'Association internationale du développement, indique le président de la banque, David Malpass.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors les supporters de l'Espérance font galérer les autorités qataries au Mondial des clubs.
Oui, 24 heures avant le coup d'envoi du match qui va opposer l'Espérance sportive de Tunis à Al Hilal d'Arabie Saoudite, à Doha au Qatar, les autorités qataries appellent les supporters sang et or à faire preuve de plus de civisme. 20 supporters ont été arrêtés avant d'être relâchés par les autorités locales à l'aéroport international de Doha pour avoir vandalisé l'avion dans la compagnie qatari à bord duquel ils ont voyagé. Doha accueille l'édition 2019 du Mondial des clubs qui se déroule du 11 au 21 décembre avec la participation des meilleurs clubs dans leurs continents respectifs, dont le double champion d'Afrique en titre, l'Espérance sportive de Tunis.
La saison est terminée pour l'Algérien Ishak Belfodil.
Oui, victime d'une rupture au ligament croisé, l'attaquant algérien d'Offenheim s'est fait opérer il y a quelques mois avec succès, mais le joueur ne sera pas prêt à fouler les pelouses de la Bundesliga cette saison. Mon sentiment, c'est que Belfodil ne va plus rejouer cette saison. Il a une blessure au ligament croisé qui prend d'habitude une durée de 9 mois pour s'en remettre, a déclaré son entraîneur Alfred Schröder. Atout offensif numéro 1 de Hoffenheim, Isaac Belfodil n'a disputé que 5 rencontres de Bundesliga cette saison, lui qui a pourtant joué 28 matchs la saison dernière en championnat avec 16 buts inscrits.
3000 agents sont mobilisés pour la sécurité du Classico Barça-Real.
3000 agents de police et de sécurité privée seront mobilisés pour le Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid le 18 décembre. L'appel à manifester autour du stade bleu et rouge génère des inquiétudes pour l'organisation de l'un des matchs les plus suivis au monde, déjà reporté en octobre à cause des manifestations séparatistes. Selon le gouvernement régional catalan, la police garantira la tenue du match, l'accès des supporters et la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur du stade. Les contrôles et les fouilles des supporters seront aussi renforcés et un cordon sera mis en place pour empêcher les manifestants d'atteindre les entrées du Camp Nou.
On termine par du handball avec une finale inattendue, Pays-Bas-Espagne.
Les Pays-Bas et l'Espagne, deux nations en quête de leur premier titre international, s'affronteront dimanche à Kumamoto, au Japon. Les Néerlandaises ont réussi l'exploit d'éliminer les favorites pour l'or, les Russes 33-32 en demi-finale. Ce sera la deuxième finale mondiale des Pays-Bas après celle perdue en 2015. Contre la Norvège, dans la deuxième affiche des demi-finales, les Espagnols ont largement dominé la Norvège 28-22. C'est la première fois depuis l'an 2000 que les Norvégiennes manquent deux fois de suite la finale d'un tournoi majeur.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Sénégal, les cas de violence se multiplient, tels que les agressions, vol à main armée, viols, cambriolages et meurtres. Ces actes sont fréquents à Guédiaouaye, dans la banlieue de Dakar, où la présence des forces de l'ordre est jugée insuffisante, voire inefficace par les habitants. Ces derniers se plaignent de la recrudescence de la violence, selon notre correspondant à Dakar, Sedina Bagay, qui leur a tendu le micro.
La présence des forces de sécurité n'est plus un gage de sécurité ni un facteur dissuasif. C'est le constat très froid dressé par Ibrahim Silla. Cet habitant de Guédiaouaye explique que l'une des causes principales de cette situation est la chute du mythe de l'homme de tenue.
Nous avons constaté que lorsque l'agent en question, que ce soit un agent de la police ou bien de la gendarmerie, se livre à des pratiques qui ne sont pas du tout courtoises, au vu et au su de tout le monde, cet agent-là a tendance à perdre son autorité. Ce qui aura comme conséquence, tout simplement, le fait que des individus mal intentionnés puissent se livrer à des casses, à des actes de violence, sans pour autant avoir peur de l'agent de police. Donc moi, je pense que leur présence n'est plus un gage de sécurité.
Une présence qui est surtout insuffisante aux yeux des habitants de Guédiaouaye. Pour Djibril Sarr, la recrudescence de la violence dans cette partie de la banlieue en est la preuve.
Ces temps-ci, on constate de plus en plus des vols à mer en la mer en plein jour, des agressions en plein jour et dans des coins sensibles. Et là-bas, on ne voit pas de policiers ni de gendarmes. Donc, l'État doit prendre ses responsabilités afin de renforcer les commissariats. Parce que la plupart des forces de l'ordre sont dans la circulation en train de racketter les taximans et autres. Et voilà, ça c'est déplorable. Mais la sécurité de tous, pour moi, est primordiale. Donc à ce niveau, l'État doit prendre ses responsabilités.
Guédiaouaye a besoin d'un dispositif sécuritaire global pour faire baisser les cas de violence. C'est la conviction de Momodou Ndiaye Diom qui estime que la sécurité ne doit pas seulement être l'affaire de l'État, car elle doit être inclusive pour plus d'efficacité.
La population a un rôle important à jouer là-dedans. Il faudrait que notamment les lieux où on note beaucoup plus de violence, notamment les stades, notamment les arènes, notamment les manifestations politiques, qu'on puisse sensibiliser davantage la population pour qu'en amont, avant que les gens ne partent dans ces lieux-là où se tiennent ces manifestations-là, qu'ils soient suffisamment outillés pour un peu savoir donc, les conséquences de cette violence-là sur la communauté et sur les auteurs et même pour les victimes. Je pense globalement il faut un dispositif concerté.
Pour davantage être au chevet des populations, l'État du Sénégal avait pourtant créé en 2013 l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité avec un effectif de 10 000 agents. Une entité qui a très vite montré ses limites dans la banlieue, poussant les autorités à renforcer les recrutements au sein des forces de sécurité régaliennes, ce qui s'est traduit en partie par l'enrôlement de 1330 agents dans la police pour 2019. De même, beaucoup de zones sensibles de la capitale sénégalaise, dont Guédiaouaye, ont été dotées de commissariats de police et de brigades de gendarmerie. Mais pour les populations, il reste encore beaucoup à faire. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Ici à Washington, l'acte d'accusation de Donald Trump a été approuvé par la commission judiciaire à majorité démocrate du Congrès. C'est une étape décisive avant un vote historique de la Chambre sur la mise en accusation du président des États-Unis. Le point avec Lionel Gaïma.
Deux mois et demi après la révélation de ce que les démocrates appellent le scandale ukrainien, la commission judiciaire de la Chambre des représentants a adopté à 23 pour et 17 contre deux chefs d'inculpation, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Le président de la commission judiciaire, le démocrate Gerald Nadler.
Today is a solemn and sad day.
Aujourd'hui est un jour solennel et triste. Pour la troisième fois en un peu plus d'un siècle et demi, le comité judiciaire de la Chambre a voté les articles de mise en accusation du président pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès. La Chambre agira rapidement.
C'était notre son de cloche pour le républicain Doug Collins, numéro 2 de la commission judiciaire, qui a immédiatement publié un communiqué disant, et je cite, Cela met en évidence la mesquinerie du retard d'hier soir et la folie des articles de mise en accusation qui ne se portent sur aucun crime et n'établissent aucun cas. S'il est déjà clair que les démocrates ont rompu leur propre promesse de truquer ce résultat, ce qui deviendra plus évident dans les jours et les années à venir, c'est que les démocrates ont gravement abusé de leur pouvoir. Il revient maintenant à la Chambre de voter sur ce texte lors d'une séance plénière attendue mercredi. Compte tenu de la majorité démocrate dans cette enceinte, Donald Trump est quasi assuré d'être mis en accusation. Il devrait toutefois échapper à la destitution, le Sénat, chargé de le juger, étant contrôlé par les républicains. D'ailleurs, le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, l'a affirmé hier soir sur Fox News, « Il n'y a aucune chance que le président soit destitué ».
En Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa et l'Africa Sport s'affronteront demain au stade Félix Houphouët-Boigny à l'occasion de la 11e journée du championnat national de football. Même si les derbies ASEC Africa ont perdu de leur saveur, ce choc suscite cette année un engouement des supporters des deux équipes qui se défient sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce regain d'engouement autour de ce derby? Yacouba Ouédraogo a joint Soalio Diomandé, directeur de publication d'Abidjan Sport.
Ces deux équipes aujourd'hui qui sont à la recherche de leur marque. La SEC aujourd'hui veut gagner ce match-là pour la première. Donc pour la SEC, il y a une place de leader en jeu. Pour l'Africa Sport, c'est de se rapprocher d'une place qualificative pour une coupe africaine.
Ce derby ASEC Africa était pratiquement au point mort ces dernières années. Qu'est-ce qui a suscité ce regain d'engouement autour de ce choc entre ces deux clubs?
Sur les réseaux sociaux, il y a de nouveaux groupes de supporters des deux équipes. Côté ASEC, c'est ASEC Mosa Nouvelle Génération. Et côté Africa Sport, c'est Africa Sport Nouvelle Génération. J'en ai pas sur Facebook qu'ils animent. Et puis, cette année, il y a eu une nouvelle page qu'on appelle le Mur Jaune. C'est encore des jeunes supporters de l'ASEC. Et puis, curieusement, ces deux groupes-là ont créé le buzz sur les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux qui ont donné un élan nouveau à ce derby-là. Et aujourd'hui, tout le monde attend ce match. Même des professionnels ivoiriens qui jouent en Europe, qui jouent en Arabie Saoudite, ont acheté des tickets à des supporters de leur club d'origine. Et la presse aussi s'est saisie de l'appel. La RTI a même fait une émission spéciale à ce midi.
À l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas ou n'étaient pas assez développés, mais ce derby mobilisait. Pourquoi les Ivoiriens s'intéressent moins à ce choc ASEC Africa de nos jours?
Oui, mais parce qu'il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de talent. Il y a 20 ans de cela, le derby ASEC Africa qui avait attiré du monde au centre de Boigny, c'était un derby où il y avait côté ASEC des garçons comme Kolo Touré, Sokora Didier, Faki Kone, Sezeto et autres. Côté Africa Sport, il y avait Kader Keïta, Fadel Keïta, Kamara Ibrahim qui est actuellement l'actuel entraîneur de la sélection de Côte d'Ivoire, ici Jean-Jacques, Kone Ibrahim et autres. Le centre de Boigny avait fait le plein, les 45 000 spectateurs. Mais après la crise qu'on a connue en 2002, je pense que ça jouait un peu. Il y avait plus de talent, donc les Ivoiriens n'étaient plus intéressés par ce derby qui se jouait même pas devant 2 000, 3 000 spectateurs.
Le constat, il est le même hein, pratiquement dans tous les championnats de l'Afrique subsaharienne surtout. Les derbys locaux intéressent moins par rapport à des matchs qui se jouent à des milliers de kilomètres comme Real-Barça. Pourquoi les fans du foot africain ne s'intéressent plus à leur propre championnat?
C'est simple, hein. Il n'y a plus de talent. J'ai pris l'année 1999, mais à cette époque-là déjà, il y avait des chaînes cryptées, il y avait des derbies en Europe, mais ça n'empêchait pas les gens d'aller au stade. Quand les équipes nationales jouent, les stades sont pleins. Donc ça peut vous dire que ce sont les talents qui attirent le public. Donc, moi, je pense que c'est la responsabilité des présidents des clubs. Il faut qu'ils bâtissent de très bonnes équipes avec de très bons joueurs pour attirer les spectateurs au stade.
Vous parlez de talent. On voit pourtant des Africains qui brillent dans les championnats occidentaux. Il y a des talents africains.
Aujourd'hui, les clubs africains ont du mal à conserver ces jeunes-là parce que les salaires, souvent même, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de prime. Tout ça, c'est des sources de démotivation. Donc, aujourd'hui, tous ces jeunes-là veulent aller en Europe.
Là où il y a de l'engouement autour des derbys locaux, c'est en Afrique du Nord. Comment est-ce que cette partie du continent réussit à conserver ces joueurs alors qu'ailleurs, on n'y arrive pas?
Ils ont de gros moyens. Quand vous prenez le budget d'une équipe comme le Zamalek ou Al Ahly ou Pyramide FC, ça n'a vraiment rien à voir avec le budget de l'Africa Sport ou le budget de Oréa de Conakry ou le budget du canon de Yaoundé. Je me souviens très bien qu'une équipe comme le Pyramide FC d'Égypte, où le président, qui est un milliardaire saoudien, qui arrive, qui débourse près d'un million de dollars dans le recrutement, ce n'est pas la même planète par rapport aux équipes de l'Afrique subsaharienne qui n'ont pas de moyens. Les stades sont vides, il n'y a pas de sponsors. C'est vraiment dommage.
Soilio Diomandé, le directeur de publication d'Abidjan Sport.
Abdourahman Dia avec vous, dans l'Amérique et vous, ce soir à 19h, temps universel. La commission judiciaire de la Chambre des représentants a adopté ce vendredi les articles de mise en accusation de Donald Trump après des débats houleux entre républicains et démocrates. C'est une étape décisive avant le vote la semaine prochaine sur son probable renvoi en procès au Sénat. Mais le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a déjà affirmé qu'il n'y avait aucune chance que le président soit destitué. Que pensez-vous de cette procédure? Laissez-nous vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001-202-205-2630.
L'artiste Célestin Mandoué est en tournée française pour présenter son nouveau projet au nom de l'art, un lieu de résidence en construction à N'Djamena où des sculpteurs pourront apprendre à chanter et des chanteurs à sculpter. Il espère décloisonner l'art afin que la jeunesse puisse s'exprimer et donner un nouveau souffle au quotidien parfois difficile sur le continent. Et Kabadou l'a rencontré à Paris.
Mandoué célèbre ses 20 ans de carrière avec un nouvel album intitulé « Au nom de l'art ». Un opus de 14 titres écrits et réalisés entre le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et l'Italie avec la participation d'artistes burkinabés, togolais, camerounais et tchadiens. Au nom de l'art, c'est aussi un projet de résidence artistique.
Le projet Au nom de l'art, c'est d'abord une résidence artistique entre sculpture et musique que j'ai le plaisir de partager avec Kisiriki, qui est un sculpteur burkinabé. Donc le but, c'est de réunir les enfants pendant 2-3 mois. Ils vont sculpter en chantant, chanter en sculptant. Et à la fin, ça sera une exposition, ça sera aussi un concert de rendu. Mais c'est aussi le titre de mon prochain album que j'ai réalisé entre le Burkina Faso, le Tchad, la Côte d'Ivoire et l'Italie. Et c'est derrière tout ça se cachent aussi des concerts, une série de concerts qui va se faire aussi à partir de N'Djamena. Donc l'idée, c'est carrément même de... Il y a une fondation aussi au nom de l'art qui va être lancée, plus un projet de centre de création. On a déjà le terrain, donc après les concerts, tout ce qu'on va récolter, ça va nous permettre aussi d'asseoir un centre de... Pas de formation, parce que le terme ne me plaît pas, mais de création. De ramener les jeunes à être là, s'approprier, voilà, j'y arrive, s'approprier la terre et puis en faire un monde plus beau que ce que nous on les a laissé. Et bien, un monde plus beau que celui que nous on les a donné. Voilà.
L'artiste burkinabé tchadien prend toujours le temps d'aller à la rencontre de son public.
Bah, le concert était bien. C'était bien parce que c'est un petit challenge que j'ai voulu faire. Tenir 1h30 sur scène, juste voix et guitare, et avoir un public réceptif, franchement, c'est un régal. Ouais. C'est même un moment de partage, c'est de ramener les jeunes à l'essentiel. Ceux qui aspirent à faire de l'art comme carrière, et puis maintenant, développer aussi les thèmes autour de ça, s'approprier leur vie, s'approprier la terre, et puis en faire de ce qu'eux, ils ont envie de faire, mais d'une manière positive. Donc, c'est pas vraiment de l'humanitaire en tant que tel. Derrière ça, il y a de la création, il y a un album, donc on est vraiment dans le projet purement artistique. Maintenant, après, si ça peut faire du bien à côté au niveau de la formation, c'est tant mieux, quoi. Voilà.
À terme, Au nom de l'art deviendra également une fondation à laquelle chacun pourra apporter sa contribution pour aider les jeunes à s'épanouir à travers l'art.
Voilà, c'était Célestin Mandoué en tournée en France, un reportage signé Kabadou. C'était Nathalie Barge avec vous pour cette édition. On se retrouve dans quelques secondes pour un rappel des grands titres de l'actualité. Très bonne soirée à toutes et à tous.